Il est 21h passé de quelques secondes sur Radion, c'est mercredi et le moment est venu de retrouver votre émission littéraire. C'est un wagon livre un peu spécial ce soir et bien sûr nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 22h. Nous allons effectivement aborder un sujet délicat, sujet hautement polémique, parce qu'il s'agit d'évoquer la possibilité d'une réforme de l'orthographe française. Alors pour en parler, nous recevons devant nos micros l'inlassable défenseur de la simplification de l'orthographe à travers une réforme qu'il veut efficace, il va bien sûr nous en parler, et puis surtout l'idée phare de son projet qu'il a mûri et sur lequel il planche depuis plus de 30 ans, c'est la mise en place d'un nouvel alphabet, un alphabet phonétique français. Voilà le menu de Wagon Livre. Et je suis heureux d'accueillir devant le micro de Wagon Livre sur Radion, Louis Rougnon-Glaçon. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Merci Louis Rougnon-Glaçon d'être avec nous. Alors, bien sûr, le sujet est vaste. Je vous présente rapidement Louis Rougnon-Glaçon et vous compléterez les éléments biographiques que je donne. Vous habitez dans le Doubs, à Mont-le-Bon, petit village dans le Haut-Doubs, horloger et forestier.
Oui.
Vous êtes retraité de l'éducation nationale, puisque oui. Vous êtes agrégé de sciences physiques. Vous avez été longtemps oui. Enseignant au lycée Edgar Faure de Morteau, après d'autres oui. Postes oui. Occupés dans le département de l'Ain, me semble-t-il.
Bourg-en-Bresse, oui, lycée qui naît à Bourg-en-Bresse. Oui.
Et Louis Rougnon-Glaçon, ma présentation est sommaire. Est-ce que vous souhaitez ajouter des éléments qui éclaireront nos auditrices et auditeurs sur l'homme que vous êtes?
J'ai une vie à la campagne, et puis je passe beaucoup de temps à l'ordinateur à faire des tracts de plus en plus féroces pour réclamer la vraie réforme de l'orthographe.
Alors, j'apporte un tout petit peu d'eau à votre moulin. Figurez-vous que je décide de regarder et de trouver des citations sur l'orthographe dans le dictionnaire des citations chez Robert Laffont, et je trouve une citation de l'académicien Paul Valéry. Je le cite... L'absurdité de notre orthographe, qui est en vérité une des fabrications les plus cocasses du monde, est bien connue. Elle est un recueil impérieux ou impératif d'erreurs d'étymologie artificiellement fixées par des décisions inexplicables. Je me suis dit que c'était un propos que vous pourriez faire vôtre. Et c'est Paul Valéry, le grand académicien, mort en 1945, certes, c'est une figure d'une autre époque, mais... Vous pensez la même chose, Louis Rougnon-Glaçon ?
Les complications de l'orthographe sont explicables, mais ce n'est pas très glorieux pour notre société. Elles s'expliquent pour des raisons antisociales. Et encore récemment, j'ai vu sur mon site Nouvel Obs, donc un commentaire qui mettait que dès le 1539, donc l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui a créé la langue française, enfin qui a exigé l'utilisation du français, donc dès cette époque-là, il y avait une intention antisociale de garder une orthographe compliquée comme privilège d'une caste.
Et vous pensez aujourd'hui que la volonté de conserver cette orthographe, c'est vrai, ardue, difficile, devant laquelle beaucoup de gens hésitent, vous pensez que c'est une volonté d'une élite et peut-être aussi du pouvoir politique de conserver une caste qui est capable de maîtriser ce code de communication, à l'écrit
oui,
notamment.
Oui, au-dessus du pouvoir politique, il y a le pouvoir économique, et c'est évident que les grands dirigeants d'un pays ne tiennent pas à instruire le peuple, donc quand on peut l'instruire avec des choses qui n'ont des détails, des choses sans intérêt, ça leur permet de garder leur pouvoir au niveau des affaires.
Ce qui m'intéresse, c'est comment l'agrégé de sciences physiques... Vous avez commencé à réfléchir à cette simplification orthographique dès les années 80, je crois, 1985.
Oui, 85,
il
y a 30 ans. Oui.
Comment
oui.
Se fait-il qu'un agrégé de sciences physiques se passionne pour l'orthographe de notre belle langue française?
Oui. Oui, alors au départ, c'est justement la physique qui m'a amené à étudier, à me pencher sur le problème. Donc j'avais étudié en fac. la possibilité de reconnaissance vocale. Et donc, c'est évident que pour faire de la reconnaissance vocale, il fallait reconnaître les sons, les phonèmes. Comme on dit, les phonèmes, c'est les sons de la langue parlée. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais comment se fait-il si, quand un appareil reconnaît les phonèmes, à partir de là, on voulait faire une machine qui écrit ce qu'on lui dicte. Et donc, reconnaître les phonèmes, c'est rien. Enfin, c'est faisable. Et à partir de là, on peut écrire phonétiquement. Avec peu d'intervention manuelle, on pouvait faire une machine qui écrit ce qu'on lui dicte. C'est la reconnaissance vocale actuelle. Mais donc, d'où venaient ces complications qui s'opposent à une écriture phonétique? Et donc, c'est là qu'on découvre un phénomène de société. Et la révolution de l'orthographe, ça sera aussi un changement de mentalité.
Donc, en fait, c'est un projet technique ou technologique qui vous a,
poussé
sur une réflexion de la langue française. Mais est-ce que vous aviez conscience, Louis Rougnon-Glaçon, que l'orthographe française était compliquée avant de réfléchir à cet appareil de retranscription des sons?
En troisième, j'avais été vexé parce que notre prof nous avait fait faire une dictée. Normalement, quand on arrivait en quatrième et tout, l'orthographe était acquise. Et donc, à partir de là, dans l'esprit des gens, en ce moment-là, donc on a l'orthographe, un point c'est tout, et puis on est bon, quoi, on s'en occupe plus. Et donc, les gens n'ont pas vu, ils redécouvrent, quand leurs enfants apprennent à lire et à écrire, ils redécouvrent que l'orthographe est absurde. Mais dans le monde des affaires, disons, ceux qui n'ont pas d'orthographe, ils s'écrasent. Hein, ou alors, ils trouvent des palliatifs avec des écrivains publics. Et puis, ceux qui ont l'orthographe, ils s'en occupent plus. Ils travaillent avec la langue. Pour eux, la langue écrite est un acquis.
Alors, vous avez des formules qui sont assassines, parfois même un peu péremptoires. Vous dites, par exemple, que notre langue française a l'orthographe la plus bête du monde.
Je pense que ça doit être ça. On compare, par exemple, l'allemand à une grammaire compliquée, mais ça s'écrit à peu près phonétiquement, l'italien s'écrit phonétiquement, l'espagnol, parlé par 700 ou 800 millions de personnes, alors que le français peut être parlé par 200 millions de personnes, par là, de façon secondaire. C'est sûrement une des orthographes les plus compliquées du monde.
Alors, vous concevez quand même que ceux qui maîtrisent actuellement correctement l'orthographe puissent être vexés que vous leur déniez cette qualité d'écrire le français sans faute.
Déjà, tous mes tracts sont écrits en orthographe pratiquement rigoureuse. Donc, il y a le problème de la réforme de l'orthographe, c'est le respect des habitudes. On a des habitudes chèrement acquises, c'est-à-dire qu'on a appris l'orthographe, et quand on voit un mot orthographié correctement, automatiquement, l'idée de ce mot vient avec, tandis que quand l'orthographe est pas bonne, ça choque et la lecture est moins bonne. Donc, le problème. Alors, un des gros problèmes de la réforme de l'orthographe, c'est psychologique, c'est respecter les gens dans leurs habitudes chèrement acquises. Et là, justement, il y a une manœuvre des défenseurs de l'orthographe qui consiste à choquer le public avec des écritures bébêtes, donc on a sans arrêt créé le conditionnement nouvelle orthographe égale chaos. Et on peut montrer que c'est exactement le contraire.
Louis Rougnon-Glaçon, on va, si vous voulez bien, marquer une première pause musicale. On rentrera dans le vif du sujet puisqu'il s'agit pour vous de bien faire comprendre qu'à travers votre combat, il s'agit de mettre en place un alphabet phonétique français. Vous nous en direz un peu plus d'ici une poignée de minutes. On va souffler un peu. Un sujet en tout cas passionnant ce soir à bord de Wagon Livre, donc avec notre invité Louis Rougnon-Glaçon qui s'est lancé à l'assaut de la forteresse orthographe. On se retrouve donc d'ici quelques minutes. Bonne soirée sur Radion. Tout de suite, voici I Got You et c'est Duc Dumont qu'on écoute sur votre radio locale. Retour à bord de Wagon Livre, ce soir nous parlons de l'opération orthographe, mais orthographe O-R-T-O-G-R-A-F. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette fantaisie ? Pas du tout, c'est le projet de réforme de l'orthographe que porte notre invité Louis Rougnaud-Glasson depuis plus de 30 ans. À vos débuts, on vous regardait comme un personnage farfelu. Aujourd'hui, on vous regarde avec beaucoup plus de sérieux, avec crainte aussi, parce que l'argumentaire est... Enfin, il y a une rhétorique bien maîtrisée.
Le ridicule a changé de camp, réellement. Au début, le gros problème, c'était de ne pas passer pour un rigolo. Et donc, la tactique, c'était la tactique du hérisson, la méthode. C'est-à-dire qu'on jouait la provocation, et puis on utilisait les réponses des défenseurs de l'orthographe pour les tourner en ridicule. Alors un exemple assez chouette que j'ai mis dans un de mes tracts, c'est une mamie qui m'avait écrit en 1986 « Si mes petits-enfants échouent à cause de l'orthographe, c'est normal, il faut bien qu'ils puissent échouer autant que les autres. » Alors là on a les secrets de la guerre de 14. Là.
Il y a 30 ans, il y avait un slogan qui était vaut oui, d'ailleurs, oui. « Orthographe simplifiée ». Avec bien sûr une graphie
écrit phonétiquement.
Oui. Orthographe.
Il y avait un E à la fin d'orthographe.
Il y a peut-être le E quand même.
Oui,
à...
oui pour, comme signe du féminin, et ça on peut le garder. Oui.
Orthographe simplifiée, prospérité. Comment expliquez-vous, on parlera de l'alphabet phonétique français, comment expliquez-vous que vous associez sur le même plan une orthographe simplifiée avec la prospérité, c'est-à-dire réussite scolaire, et prospérité, j'imagine, économique
et sociale.
Notre pays. Est-ce que vous pouvez développer cet argument ?
Il y a un exemple ahurissant qui n'a pas été présenté par les médias, c'est la crise politique belge. Donc en Belgique, les francophones étaient rejetés par les néerlandophones, hein, les wallons francophones étaient rejetés par les flamands néerlandophones. Et la raison, c'était... Alors la télé nous l'a dit ça, il y a un écart de revenus de 22%. C'est-à-dire que quand un néerlandophone, donc en Belgique, quand un néerlandophone touche 12 mois de salaire, Oui, quand, disons, il y a un écart de 2 mois de salaire sur une année. Si un francophone touche 12 mois de salaire, dans le même temps, le néerlandophone touche plus de 2 mois en plus. Et sur une carrière complète, ça fait une différence de revenus de 150 000 euros, 1 million de francs. C'est-à-dire que le fait de parler français, c'est une pénalisation de 1 million de francs, ou 150 000 euros par personne sur une carrière complète. Et puis alors au niveau social, donc les Belges francophones ont plus de chômage, les néerlandophones les considéraient comme indécrottables, hein, au point de vouloir la coupure de la Belgique. Là. Et alors il y a un autre aspect que j'ai vu sur le site du ministère belge de l'Intérieur, cette différence de revenus se traduit par une différence de longévité. C'est-à-dire qu'il y a une différence d'espérance de vie de 2 ans, plus de 2 ans, entre les néerlandophones et les francophones.
Mais là, on est dans le domaine de l'oral. On n'est pas, alors...
Non, mais on est dans le domaine de la langue. C'est-à-dire qu'un Belge francophone, il doit se farcir la langue française. Et pendant ce temps-là, il n'a pas les... On l'écarte des savoirs fonctionnels qui, eux, sont synonymes de pouvoir. Donc, les Belges francophones sont statistiquement... en retard énorme par rapport aux néerlandophones. Donc le petit autocollant orthographe simplifiée égale prospérité que j'avais diffusé en 1985 par là, il est pleinement vérifié par les faits. Alors les médias n'ont pas du tout analysé le problème, ils ont juste dit qu'il y avait un écart de revenus. La télé a dit une fois, il y a un écart de revenus de 22%, c'est tout ce qu'ils ont dit, alors que la crise politique belge aurait mérité une analyse.
Alors, quittons la Belgique,
oui,
revenons
oui.
À notre France. Comment vos collègues enseignants vous regardaient-ils au début de votre combat, lorsque vous étiez enseignant notamment au collège de Morteau, où vous lanciez, c'était l'ADEC, hein, c'était l'Association pour le droit à une écriture commode.
Ça a été le piège d'ADEC. C'est une très bonne question. Alors forcément, au départ, réformer l'orthographe, c'est perçu comme une attaque contre la profession enseignante, puisque la profession enseignante a la grande dignité de faire apprendre, de donner une bonne orthographe aux gosses. Et c'est vrai que c'est un problème, et personnellement, avec mes élèves auxquels je prêchais parfois des choses pas très orthodoxes, je leur disais quand même, l'orthographe, on en a besoin, apprenez-la. Mais donc, au début, l'opération orthographe était perçue comme une attaque contre les enseignants, et alors, tout récemment, j'ai sorti, alors sur le site Orthographe Nouvelle Obs, il y a un article qui a été censuré au mois d'avril, c'était opération alphabétique, hein, alphabétique écrit phonétiquement, opération alphabétique, 2 points, le contraire d'une agression contre les enseignants, et donc je ramenais ce sujet-là, fort à propos donc, et l'article a été censuré pendant 2 jours, puis il est revenu à sa place. Et à la place, les censeurs vont censurer tout le site Alphographe. Mais donc, alors actuellement, en plus, quand même, les enseignants ont... Il y a des collègues qui ont protesté, mais en principe, ils n'ont pas. Ils croient ce qu'ils disent, c'est-à-dire que pour eux, le principe de la liberté d'expression, c'est un acquis. Par contre, il y a des calculs en haut lieu qui sont beaucoup plus tortueux. Mais les enseignants, en général, maintenant, ils sont de plus en plus d'accord avec la démarche donc de l'opération orthographe. Mais le problème, c'est au niveau de ce qui tiennent les sites internet, de ce qui tiennent les médias, etc.
Alors, on aura peut-être l'occasion de parler de ce que vous dénoncez, c'est-à-dire vous êtes censuré.
Ah oui, chape de plomb, oui.
On y reviendra,
oui.
Sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais après tout, donc vous dérangez.
Ah oui.
Si on vous censure, oui, oui. C'est que vous dérangez.
Ah oui.
Mais qui dérangez-vous le plus ? Les intellectuels, les tenants de cette forteresse orthographe, ou les politiques, j'entends les politiques au niveau du ministère de l'Éducation nationale.
Là, ça va loin.
L'Académie française s'intéresse-t-elle à vous ?
Ils n'ont pas d'ennemis à répondre. C'est pas eux que je vise en principal, c'est plutôt l'inspection générale de français. Mais globalement, même, je pense que à partir de l'orthographe, on touche à une corruption globale, c'est-à-dire ceux qui tiennent le pouvoir économique. J'ai des articles là-dessus, j'ai vu des tas de documents. Ils se sont jamais intéressés à l'instruction des Français.
Et pourtant, en France, on réforme. Oui. Alors, Dieu sait si les réformes dans les, au ministère de l'Éducation nationale sont nombreuses. Ça change avec les ministres. Il y a toute une équipe de pédagogues, entre guillemets, qui possède le pouvoir dans les ministères. Et pourquoi n'est-on pas capable, en France, de poser et de faire confiance aux enseignants au lieu de toujours tout imposer?
Alors déjà, il y a une chose toute bête, le pouvoir politique pourrait, mais il se saborderait parce qu'il a en face de lui le mammouth. Le mammouth qui est vraiment, l'appareil du mammouth, excusez-moi le mot, mais c'est une mafia. Et donc le pouvoir politique pourrait tout simplement faire marcher l'éducation nationale en disant, avant de faire une réforme, on impose un débat public, y compris par les enseignants, parce que les enseignants ne sont pas du tout consultés quand il vient une réforme. Quand arrive une réforme. Et donc, en introduisant les débats démocratiques dans les réformes avant de les mettre en place, on éviterait des réformes ratées. Des réformes ratées ont été la règle générale depuis les années 60. Maths moderne, méthode globale, réforme ratée de l'orthographe, dite réforme Rocard de 1990. Je m'étais opposé à la réforme Rocard, c'est un rafistolage. Ceux qui l'ont mise en place savaient que ça ne réglerait rien.
En fait, ce que vous n'aimez pas, c'est les réformes douces ou les fausses réformes, et surtout ce que vous détestez, ce sont les mauvaises réformes.
Les fausses réformes, oui. Il y a eu une bonne réforme dans l'éducation nationale, c'était l'école de Jules Ferry, et alors 1880. Donc, pourquoi Jules Ferry a pu mettre en place son école laïque, publique, obligatoire? Tout simplement parce que le pouvoir économique français avait été humilié par la défaite de 70 et par l'obligation de fusiller un Parisien sur 100 pour avoir la paix, hein, la commune de Paris. Donc suite à cette honte nationale de la débâcle de Napoléon III et de la commune de Paris, ceux qui tiennent le pouvoir économique ont eu la trouille, vraiment la trouille. Ils se sont dit, le roi de Prusse fait mieux que nous. Et donc Jules Ferry, grâce à ça, a pu mettre en place donc un enseignement qui tenait la route.
Mais justement, Louis Rugasson, ne sommes-nous pas aujourd'hui confrontés à cette difficulté de la massification de l'enseignement qui a commencé il y a très longtemps, on va dire dans les années 70 ?
Est-ce que
justement cette massification de l'enseignement ne nous fait pas prendre conscience que l'orthographe est inenseignable, puisque effectivement, il faut reconnaître quand même, on le voit sur Internet, dans les blogs, ne serait-ce que des pages Facebook, à travers de tout petits commentaires de deux lignes, où l'orthographe est désastreuse, chez des gens jeunes et moins jeunes aussi. Et c'est quand même consternant.
Oui. Et à ce sujet-là, Evelyne Charmeux, donc la grande figure de proue de l'orthographe, a sorti, il y a moins d'un an, un livre intitulé Enseigner l'orthographe autrement. Alors c'est complètement anachronique.
Mais c'est ambitieux.
C'est prétentieux, c'est faux, c'est mensonger, c'est tout ce qu'on veut. L'orthographe n'a jamais été enseigné correctement. Il y a 50 ans, il y avait 20% d'élèves qui n'allaient pas au certificat d'études parce qu'ils faisaient 4 fautes d'orthographe. Et à cette époque-là, l'orthographe était plus facile à enseigner que maintenant. Pour des raisons psychologiques, des raisons de saturation visuelle. C'est-à-dire que en 1950, la communication se faisait par la lecture. Donc en lisant, on finissait en général par acquérir une bonne orthographe. Et maintenant, il y a toute une communication qui se fait par l'image, par la télévision, etc. Il y a une saturation visuelle des écoliers et l'orthographe est encore plus dure à enseigner qu'avant. Elle n'a jamais été enseignée correctement. Et le livre d'Evelyne Charmeux, c'est inadmissible qu'on puisse prétendre enseigner l'orthographe autrement maintenant, alors que l'éducation nationale a fait, il y a 3 ans, Valérie Pécresse se faisait mousser en mettant en place un enseignement de l'orthographe dans les universités. Donc l'orthographe n'a jamais été enseignée correctement. Vous avez un autre cas qui est vraiment curieux, c'est le livre de François de Closette. Il y a 4-5 ans, François de Closette a sorti son livre où il fait ses confessions de dyslexique malheureux. Et alors, c'est sidérant, François de Closette, qui aurait dû se présenter comme réclamant une réforme de l'orthographe, il s'est dépêché de dire « Oh, mais l'orthographe, c'est une religion nationale, faut la respecter et tout ». Alors que François de Closette montrait par lui-même, en tant que journaliste, que l'orthographe n'a rien à voir avec la culture. Il défendait encore l'orthographe.
L'orthographe est plus qu'une mauvaise habitude, c'est une vanité, écrivait Raymond Queneau. L'orthographe est plus qu'une mauvaise habitude, c'est une vanité.
C'est une vanité, il y a de la vanité.
J'apporte de l'eau à votre moulin, Louis Rouillon-Glaçon.
Oui, hein. Mais disons, c'est, pour moi, c'est surtout une mentalité. Réellement, la réforme de l'orthographe va faire un changement de mentalité.
Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous fassions une nouvelle pause musicale ?
Oui, mais d'accord.
Heureusement que vous me dites oui. On retrouve Louis Rouillon-Glaçon, le défenseur du droit à une écriture commode et surtout faut pas, non, il ne faut pas dire ça.
On en parlera.
Mais surtout, il est l'homme qui veut, en tout cas, que l'on introduise un alphabet phonétique français. Il faut absolument qu'on en parle. On écoute tout de suite Jimmy et le titre c'est Cats on Trees.
You won't find him anywhere. He's gone for good. Lost for everybody. I hope to hear from you. I hope one day some inspired by you will be better people. I think I see him everywhere. Even gone. I feel him all around us. I hope to hear from you. I hope one day some inspired by you will be better men. Have to see me as I am. The pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a caught out of us, of this journey to come back to you. Have to see me as I am, but I'm still the pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a caught out of us, of this journey to come back to you. Ooh, ooh. We are searching. From you, I hope one day some inspired by you will be better men. Would you find me? Would you find me as I am? Would you try with me? Would you try the best you can? Have to see me as I am, and I'm so the pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a call to all of us, of this journey to come back to you.
Si vous avez manqué le début de notre entretien, sachez que votre magazine culturel sera très prochainement disponible en podcast sur le site de votre radio locale. Hein, d'un clic, c'est pratique, www.radion.fr. Alors, Radion, attention à l'orthographe de Radion, RADYO2NE. Hein. C'est la radio de Lyon.
Oui.
Rubrique émission, puis vous sélectionnez Wagon Libre et vous retrouvez les plus récentes et les dernières émissions Wagon Libre, donc sur le site de Radion. L'orthographe française et sa possible réforme sont au cœur de notre émission avec Louis Rouillon-Glaçon. Avant la pause musicale, je parlais du droit à une écriture commode. Vous souhaitiez revenir sur cette belle image.
Oui, donc à la rentrée 1985, il y a eu des échos dans toute la presse nationale sur l'opération que j'avais menée, sur le tract « Vive la désinvolture » écrit phonétiquement. Et là-dessus, en une semaine, j'ai reçu une quarantaine de lettres, dont les trois quarts étaient des encouragements et un quart des invectives. Alors les invectives, un régal. une illustration de la sottise humaine. Mais donc, avec les encouragements, on a créé donc laborieusement, en mai 1986, donc en coïncidence de date avec l'accident de Tchernobyl, on a pu créer une association intitulée Orthographe ADEC, donc orthographe écrit phonétiquement, ADEC, Association pour le droit d'utiliser une écriture commode. Et donc l'expérience était vraiment instructive pour moi, parce que j'ai réalisé les ruses de la forteresse orthographe, c'est-à-dire que le vice-président de l'association, François Sébastianov, donc, qui avait écrit un livre dans la collection BT2, donc L'orthographe et nous, un excellent petit livre, a fait une opération d'entrisme, pratiquement, c'est-à-dire qu'il a réussi à se placer comme vice-président, étant agrégé de grammaire, il s'est trouvé automatiquement vice-président. Et dès avant la création de l'association, il sabotait l'association, il lui a imposé une politique complètement de sabordage, c'est-à-dire qu'il a refusé, essentiellement, il a refusé toute modification de l'alphabet. Alors que l'alphabet actuel a pas mal de petits problèmes. On a des lettres qui font double emploi, la lettre K, la lettre Q, on a des choses comme ça, plus un manque de lettres, c'est évident. Et donc, la leçon de l'ADEC, c'était que la forteresse orthographe, c'était utiliser toutes les ruses, toutes les manipulations. Et grâce à cet échec, hein, l'ADEC, dès sa naissance, l'association ADEC était mort-née. Ou mort-née, je ne sais pas comment il faut dire.
Mort-née,
je pense, oui. Et donc, en redémarrant l'opération orthographe en 2005, j'ai très rapidement eu affaire à un mouvement, un autre mouvement orthographe, qui jouait le même jeu.
J'aimerais, Louis Anglesson, je vous prie d'excuser,
oui,
si vous
êtes d'accord. Oui.
C'est parce que le temps passe très vite et je voudrais vraiment vous donner pleinement la parole. J'aimerais que vous expliquiez ce qui est au cœur de votre désir de réforme de l'orthographe française. Vous dites qu'une vraie réforme de l'orthographe française passe obligatoirement par l'adoption d'un nouvel alphabet. Cet alphabet que vous souhaitez ardemment, c'est un alphabet phonétique français. Alors, il y a eu, en 1975, l'alphabet phonétique international. Moi, je me souviens que en collège, nos enseignants de français codaient les sons avec l'API, alphabet phonétique international. Moi-même, ayant été enseignant français, il m'arrivait d'être obligé de l'utiliser. Et il est vrai, là j'apporte encore de l'eau à votre moulin, que les élèves de lycée ne l'avaient souvent jamais vu en collège et que les élèves n'y comprenaient rien du tout, que c'était quand même relativement compliqué. Par exemple, des sons « et », les sons « est », le son « un » ou « un » entre... Bon, il y a des différences extrêmement compliquées. Vous, au cœur de votre désir de réforme, vous voulez créer un alphabet phonétique français. Donc ça va supposer un réapprentissage de notre alphabet.
Oui, l'API, l'alphabet phonétique international, j'ai découvert ça, c'est qu'il a été réellement mis en place pour empêcher la réforme de l'orthographe. C'est-à-dire que, si, avec un meilleur choix des lettres, la réforme de l'orthographe devenait évidente. Alors, il y a un tract tout récent que j'ai diffusé, c'est au sujet des écritures du mot juin, le mois de juin. Donc, juin, avant 1550, ça s'écrivait Yvain. On voit ça sur des tombes, sur des monuments anciens. Juin, ça s'écrivait Yvain.
I-V-I-N.
Donc, Yvain, donc les gens savaient qu'il fallait lire juin. Et... après, donc vers 1550, à partir de là, ça s'est fait progressivement, on a adopté une lettre J différente du I pour le début de juin, et puis une lettre U différente du V, donc ce qui fait juin. D'accord ? Mais juin ne s'écrit pas phonétiquement puisqu'il y a les deux lettres IN, c'est-à-dire qu'avec une écriture phonétique, il faudrait, donc on crée la lettre 1 en attachant dans les écritures d'imprimerie, on attache le I et le N, on fait le digramme 1, comme on avait déjà la voyelle de cœur, le OE attaché, c'est un digramme, donc on se fait un digramme 1, et à partir de là, juin s'écrit phonétiquement. Vous comparez cette écriture phonétique à celle l'alphabet phonétique international, alors pour la lettre J, dans l'alphabet phonétique international, il y a une espèce de Z, pour la lettre U, il y a une espèce de Y avec la branche à droite, enfin une espèce. Et pour la lettre 1, il y a un epsilon surmonté d'un tilde. C'est-à-dire que juin écrit avec l'API est illisible pour le commun des mortels, alors que si juin est écrit avec l'alphabet phonétique français, on le lit immédiatement. Et donc j'ai un petit tract d'une demi-page que j'ai diffusé à mes contacts via DO qui montre que la mauvaise écriture de l'API était faite justement pour empêcher la réforme d'orthographe.
Et se posera quand même toujours le problème des homonymies entre la pomme que l'on mange et la paume de la main.
Oui, alors la pomme et paume, c'est pas des vrais homonymes, c'est des paronymes. Et là, justement, alors là, l'alphabet phonétique international fait la différence. Avec des mauvais choix de lettres, mais pomme, ça s'écrit P avec un C inversé et puis un M. Hein. Et paume, ça s'écrit P-O-M. Alors, enfin, c'est assez... Donc là, c'est... On garde... Alors, avec notre alphabet phonétique, pomme, on l'écrit P-O-M, parce que la lettre O se prononce en général O, comme... normal, etc. Hein. Donc P-O-M pour pomme, et puis P-O, c'est-à-dire A, attaché avec un U, M pour le mot paume. Et donc on distingue des paronymes, hein. Par contre les homonymes véritables, on ne peut pas les distinguer, les homonymes véritables sont une faiblesse de la langue.
Alors ne pensez-vous pas qu'une orthographe phonétique va contribuer à appauvrir la langue ?
Au contraire, une orthographe phonétique rend toute la richesse de la langue orale à l'écrit, ce qui n'est pas le cas pour l'orthographe actuelle. Et d'autre part, une orthographe phonétique, ça va rétablir, ça va donner à tout le monde la base d'une bonne prononciation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc il y a un principe aussi, si une expression... Et le contenu oral, si le contenu d'une expression énoncée oralement est reproduit phonétiquement, toute la richesse de la langue orale est reproduite dans la langue écrite.
En tout cas, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas quelle est la réaction de celles et ceux qui nous écoutent. Adhèrent-ils ? Sont-ils en tout cas opposés ? On n'en sait rien. Mais le constat que vous faites, Louis Rougnon-Glesson, c'est que les défenseurs de l'orthographe traditionnelle ne s'attaquent pas beaucoup à vous. Il semblerait que...
Ça me manque.
Ça me manque.
Pendant longtemps, j'ai polémiqué sur le forum Éducation de France 2 avec un pseudonymé Singe, qui était un agent double, en fait, qui servait à ridiculiser l'orthographe.
Alors Singe, vous parliez de Singe sur le forum Éducation France 2. Et justement, là, il y avait des échanges quand même, il y avait polémique, il y avait débat.
Oui, il y a eu énormément de censure. Mais donc, oui, alors Singe m'a appelé à un moment donné Orthobélix. Et Orthobélix a besoin de légionnaires romains pour le spectacle.
Louis Rougnon-Glesson, on se retrouve dans une poignée de minutes, on marque une nouvelle pause musicale, toujours à l'écoute de Radion et puis ses wagons livres, l'émission littéraire de votre radio locale. On se retrouve d'ici quelques minutes.
L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Debout, une rose à la main, non plus rien ne le retient. Dans ses love stories, dans ses love stories, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais
je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story.
Il est parti à l'assaut de la forteresse Orthographe avec comme slogan Opération Orthographe, mais Orthographe O-R-T-O-G-R-A-F. C'est Louis Rougneux-Glaçon, agrégé de sciences physiques. Et Louis Rougneux-Glaçon, actuellement, vous êtes donc à la tête d'une association, d'un mouvement. Quelles en sont les raisons d'être ?
J'ai beaucoup de sympathisants, j'ai pas fait d'association loi de 1901 à cause de l'expérience de l'association de Orthographe ADEC, donc qui a été coulée de l'intérieur.
Louis Rougneux-Glaçon, vous savez qu'en France, on est très attaché aux dictées. C'est une espèce de jeu ou sport intellectuel national. Vous avez toujours beaucoup tapé sur les dictées, et notamment les dictées de Bernard Pivot. Pourquoi cette antipathie profonde pour les dictées ?
C'est une manipulation, donc on fonctionne, c'est une manipulation qui sert à faire gommer l'orthographe alors que l'orthographe, il faut la réformer. Et c'est vrai que pour la dictée de Pivot, j'ai écrit de vieille date, comment la dictée de Pivot a fabriqué nos voyous. C'est-à-dire que c'est facile de faire une dictée devant la télé, de donner une leçon de pédagogie aux enseignants, mais je pense que les collègues parisiens qui ont des enfants de milieux moins favorisés ne misent pas sur l'orthographe, et donc c'est là qu'on fait des futurs brûleurs de voitures. Hein, parce que les jeunes des milieux défavorisés ne se reconnaissent pas dans l'orthographe de Bernard Pivot.
Un de vos écrits, en février 2007, a pour titre suivant, alors un titre hautement accrocheur, « Les seigneurs de l'orthographe roulent pour Jean-Marie Le Pen ».
Donc ça revient à ce que je viens de dire.
Vous savez, c'est la raison pour laquelle je pensais qu'il y avait peut-être une passerelle, et je l'ai tenté.
Oui, c'est bien, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ceux qui valorisent l'orthographe savent très bien qu'on ne pourra jamais enseigner l'orthographe correctement, qu'on fabrique des jeunes gens révoltés à juste titre. Et donc, à partir du moment où il y a des voitures qui brûlent, etc., des dégâts dans les banlieues, on sait qu'il y a une forte fraction de Français qui vont dire « ras-le-bol, on veut la réplique forte », et donc ils votent pour Le Pen.
Alors là. Justement, vous dites qu'il y a un discours anti-prof, anti-enseignant actuellement, un discours assez fort qui est lié justement aux piètres performances des élèves, notamment l'orthographe, parce que je ne voudrais pas non plus accabler les enseignants ou l'éducation nationale, mais on sait très bien que quand même, il y a que l'enseignement en France a de gros, gros problèmes. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais restons sur le domaine de l'orthographe. Et justement, vous dites qu'il y a une multiplication des attaques contre la profession, et justement, pour faire écho à ce que vous venez de dire, une haine populiste contre les enseignants. Est-ce qu'une réforme de l'orthographe va tout résoudre ?
Le simple fait de dire que les choses vont s'améliorer, ça serait une chance, disons, ça serait une chance pour le pouvoir politique qui prendra la décision de réformer l'orthographe. Alors, le jeu donc anti-prof et tout, j'ai sur le forum éducation de France 2, il y avait un intervenant qui s'appelait anti-prof, il y en a un autre qui s'appelait prof killer, tueur de prof, et là réellement c'était très vraisemblablement des enseignants détachés qui jouaient le jeu de l'extrême droite pour motiver les enseignants de la base, pour leur dire attention, vous êtes agressés, défendez-vous, obéissez à vos syndicats. Et donc là, c'est l'immaturité du jeu politique français, où on fortifie toujours les extrêmes, au lieu de rechercher les solutions de compromis.
En tout cas, on ne peut pas vous reprocher d'être lâche, parce que vous attaquez quand même des gens très puissants. Alors vous attaquez le mammouth, vous n'attaquez pas les enseignants de français, vous attaquez l'orthographe, on est bien d'accord.
Oui, absolument, enfin, oui, absolument, oui, oui.
Et alors, aussi, vous attaquez les pédago-marxistes ou les pédago-trotskistes, et là, c'est très fort quand même.
Là, c'est des mots très forts. Pas les pédago-trotskistes. Ah, si, s'il y a des pédago-trotskistes, je suis avec eux. Par contre, j'ai sorti le mot pédago-marxiste qui est assez embarrassant, mais réellement, et que toute la censure que j'ai pu voir et toutes les manipulations que j'ai pu voir sur Internet et forums sans arrêt, faut calculer pour que le message puisse passer, qu'il soit pas censuré. Après, donc, il y a des tas de choses qu'on cache aux Français. Et donc là, disons, le mot pédago-marxiste est mal choisi parce qu'il est ambigu. Il y a les pédagogues staliniens qui verrouillent, qui font la chape de plomb, qui mettent l'éducation nationale dans une situation de désastre. Et puis, réellement, l'autre tendance de la gauche, c'est les trotskistes, autogestionnaires et tout, qui sont toujours et qui servent à cautionner les autres, mais avec, dont la démarche est en elle-même très bonne.
Alors, vous êtes censuré parfois parce que vous dérangez, vous dites que en face de vous, vous n'avez pas de contradicteur solide. Ne vous sentez-vous pas parfois un peu trop seul ?
Oui, c'est vrai, mais la grosse tactique de la forteresse orthographe, c'est justement la chape de plomb. Ils ne peuvent pas venir avec des arguments, ils se font démolir. Tout ce qu'ils mettent opposé comme argument, ça dégringole. Et la force de la forteresse orthographe, c'est la chape de plomb, d'où le fameux qualificatif de pédagogue stalinien ou intello-stalinien, parce qu'il y a les médias qui sont avec, souvent.
Vous tapez même sur la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Madame Hélène Carrère-Dancos. Je vous lis, Louis Rougnon-Glasson. À partir, donc bon, vous parlez des dictées de Bernard Pivot, vous dites qu'il officie triomphalement devant la télévision avec sa fameuse dictée qui pourtant mettait en exergue les bizarreries les plus incohérentes et les plus débiles de notre orthographe.
Oui, c'était pas de moi ça, c'était de l'Héroé.
Mais vous adhérez.
Là j'étais d'accord avec l'Héroé, mais par contre l'Héroé est à l'origine de la réforme ratée de 1990. La fameuse réforme Rocard, et là, donc, justement, on a des réformateurs modérés ou des pseudo-réformateurs qui ont fait... Donc, j'ai repris les termes de l'Héroé pour attaquer les championnats d'orthographe de Bernard Pivot, mais l'Héroé, maintenant, est violemment attaqué dans un tract intitulé « Orthographe, 2. La vieille voiture et les charlatans ». C'est-à-dire que l'Héroé se comportait comme un garagiste qui vous dirait « Amenez votre voiture tous les jours au garage, vous avez une vieille voiture pourrie, mais amenez-moi là tous les jours au garage, vous finirez par avoir une voiture neuve. » Donc c'était la démarche de l'Héroé avec la réforme de 1990.
Alors, je reviens à ce que vous avez écrit à propos de cette vénérable Hélène Carrère-Dancos. À partir des dégâts prévisibles et ainsi constatés, donc vous parlez de l'orthographe, Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, est maintenant géniale pour positiver sur l'air de « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Elle déclare que, pour la place dans le monde de ceux qui pratiquent notre langue, on n'a certes plus la quantité, vous citez donc Hélène Carrère-Dancos, hein, on n'a certes plus la quantité, mais on a la qualité. Et vous insistez. Son triomphalisme rejoint ainsi celui d'une armée de perroquets pour qui le rayonnement passé de notre langue est une raison suffisante pour se boucher les yeux sur l'incertitude de son avenir. On n'y allait pas de main morte.
Mais c'est vrai.
Et personne ne vous répond à l'Académie française. Est-ce que vous avez été approché par des politiques, par des grandes figures institutionnelles, je pense des gens de l'Académie française, qui sont des gens très ouverts?
Ça viendra. En principe, les intellectuels sont très ouverts. Mais donc là, j'ai pris des termes de plus en plus violents parce que j'avais affaire à un mur de silence. J'ai fait la comparaison des trompettes de Jéricho, la forteresse orthographe. C'est Jéricho, et alors on claironne de plus en plus fort là-devant, et la forteresse va finir par s'effondrer.
Finalement, Louis Runeau-Glasson, on peut penser que cette volonté que vous souhaitez, vous n'êtes sans doute pas le seul, mais c'est quand même pas encore ce qu'il y a de plus répandu en France. Il y a encore un gros travail de conviction à mener tout de même.
Ça peut, je pense maintenant que ça peut basculer très vite. Je ne serais pas étonné que 2014 fasse bouger les choses. Il y a des quantités d'éléments qui sont, par exemple, pour l'enseignement de l'orthographe dans les entreprises.
Alors justement, là vous parlez du pigeonnage.
Oui. Pourquoi? Oui, et maintenant je parle même de piège mafieux. C'est-à-dire que
pourquoi vous reprochez aux entreprises de faire appel à des marchands d'orthographe pour venir aider leur cadre à améliorer leur orthographe? Qu'est-ce qui vous dérange?
C'est simple, tout simplement, on fait une orthographe idiote et après, on a besoin de marchands de béquilles. Donc l'enseignement de l'orthographe dans les entreprises s'est présenté comme un besoin. Et c'est vrai que les choses étant ce qu'elles sont, c'est un besoin. Comme quand quelqu'un est blessé, on a besoin de béquilles. Et donc, le pharmacien qui vous vend des béquilles, c'est pas lui qui est responsable de l'accident. Et donc là, maintenant, vous avez la méthode d'Anne-Marie Guignard, j'ai découvert ça bien 6 mois par là, une certaine Anne-Marie Guignard qui propose remédiation et coaching orthographique. Elle m'a envoyé un message sympathique, comme quoi elle adhérait à l'opération alphabétique. C'est-à-dire que maintenant, une entreprise qui demande des cours d'orthographe pour ses employés, elle peut parallèlement demander une présentation de ce que peut être une réforme de l'orthographe, avec une modernisation de l'alphabet. Et donc là, on n'est plus dans une logique de marchand de béquilles, on est dans une logique de défense de la langue française.
Mais comprenez-vous que, par exemple, dans un document publicitaire, de nombreuses fautes d'orthographe puissent jeter le doute et remettre en question la crédibilité d'un produit vendu par une société ou une entreprise si le texte est truffé de grosses fautes d'orthographe, de fautes grossières?
Alors, l'annonceur peut jouer la provocation. Et d'autre part, j'ai un slogan qui dit exactement le contraire, c'est-à-dire une pub qui respecte intégralement l'orthographe actuelle est une pub qui montre un produit fait pour être en panne. Parce que l'orthographe actuelle, c'est un produit fait pour être en panne. Et c'est-à-dire que là, par rapport aux affichages publicitaires, qui sont du plus grand intérêt, on propose donc différentes solutions, soit faire apparaître des nouvelles lettres en respectant intégralement l'orthographe actuelle, mais en faisant apparaître des nouvelles lettres, donc on ne respecte pas l'orthographe, on fait apparaître la lettre epsilon pour le son e, hein, respecter, hein, ou des choses comme ça, ou la lettre on, la lettre ou, la lettre e, la lettre 1, etc. Donc une orthographe publicitaire qui fait apparaître les nouvelles lettres, donc peut accrocher le client potentiel de cette façon-là. Il peut y avoir aussi il y a une tendance générale dans la pub, c'est de faire des concentrations orthographiques, c'est-à-dire pique-nique, par exemple, écrire P-I-K-N-I-K, comme ça s'écrit en Finlande ou en Lettonie. Et donc, la publicité écrite peut faire énormément avancer les choses. Et on mise là-dessus. C'est le but de l'opération alphabétique, c'est d'avoir de plus en plus de messages publicitaires provocateurs au niveau de l'orthographe.
Alors, après l'opération alphabétique, on fait l'opération pause musicale.
Oui,
dernière petite pause musicale de la soirée dans Wagon Lit, parce que le temps passe très vite avec on se retrouve dans quelques minutes pour le moment sera venu de conclure. On vous retrouve dans quelques minutes.
Teenage life, all that I was, slowly become so irrelevant. And I believe before, I was doing okay, doing alright before I met your boy. I never ever felt this way before, I was doing okay, doing alright before I met your boy. And when I get my head above the water, all I see is what I lost, my obsessive 024. Push it all up on the tracks. If I could ever win you back, if I got one more chance to leave you.
Retour avec celui qui veut te assaillir et qui, en tout cas, essaie de prendre d'assaut cette forteresse orthographe depuis plus de 30 ans. Peut-être va-t-il y arriver. En tout cas, on peut y arriver, Louis Rougnegasson, à condition d'être soutenu et peut-être épaulé par le pouvoir politique. Alors, question délicate, pensez-vous qu'il y a plus de réformateurs de l'orthographe à droite ou à gauche?
Alors là, question délicate, je pense que c'est moitié-moitié. Le problème, c'est que, disons, réformateur d'orthographe, personnellement, je serais contre une réforme ratée. J'ai été contre la réforme Rocard de 1990, qui n'a rien réglé du tout. Et donc, à partir du moment où on peut montrer qu'une réforme d'orthographe peut être le contraire de la pagaille, qu'elle apporte des avantages à toutes les étapes de sa mise en application, je pense qu'on aura beaucoup d'adhérents à droite comme à gauche.
Alors, en fait, oui. Ce qu'il faut bien retenir, oui. C'est que votre courant orthographe.fr,
oui.
Ne nous trompons pas,
oui.
.fr, pour faire réussir la réforme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut modifier l'orthographe et il faut surtout changer d'alphabet en créant, selon vous, cet alphabet phonétique français.
Oui.
C'est le cœur de votre réforme.
Oui, enrichir l'alphabet, c'est-à-dire qu'on garde toutes les lettres qui sont utiles, et puis on crée pas mal de digrammes, donc la lettre U en attachant le O et le U, la lettre ON, la lettre CH en attachant le C et le H. Et ça s'intègre aussi dans le cadre de l'alphabet phonétique français, s'intègre dans le cadre d'un alphabet universel. Alors avec le mot-clé alphabet universel, on tombe aussi sur mes tracts sur Internet. L'alphabet universel, c'est-à-dire qu'il y a un besoin pour l'informatique, pour la communication internationale, on a un besoin de commodité informatique. Je prends un exemple tout simple. Dans la langue turque, son « ch » s'écrit avec un « s », « cédille ». Et donc la cédille, dans l'alphabet universel, on pourra la mettre sous toutes les lettres dont la forme le permet. La lettre et on pourra faire des digrammes et à partir de là on peut répondre à tous les besoins de avec l'alphabet universel on répond commodément à tous les besoins d'écriture des langues occidentales, de l'alphabet occidental et de l'alphabet grec.
Louis Rougnegasson, si je vous dis que l'orthographe est la science des ânes.
Oui, parce que plus les ânes sont chargés, mieux ils vont. Et donc, non, mais c'est ça, c'est réellement, les gens ont des tas de soucis, l'apprentissage, déjà les soucis des enfants, la dyslexie éventuelle, enfin, c'est la science. Mais alors là, par contre, ceux qui l'imposent, ils sont géniaux, hein. Ça c'est vraiment, c'est le génie de l'orthographe, c'est le génie des manipulateurs.
Louis Rougnegasson, alors pour prolonger le débat, bien évidemment, on se tourne vers cet extraordinaire outil qu'est l'Internet, alors on peut vous lire longuement. Donc sur des blogs, alors le blog Mediapart de Louis Rougnegasson, le blog Orthographe Nouvel Obs, hein, c'est sur le blog Nouvel Obs, et puis Orthographe, alors O-R-T-O-G-R-A-F, notamment chez
Free, Orthographe FR, oui.
FR, voilà. Et puis vous avez un site qui a été censuré.
Oui, c'est des hackers, je pense. Quand on a remis l'article censuré d'Orthographe Nouvel Obs, au même moment, le site Alphographe a été complètement censuré et il contient au moins 80% de mes documents PDF. Mais donc, c'est la censure qui panique, c'est les défenseurs, c'est la panique de la forteresse orthographe, je pense que c'est bon signe.
Alors, les curieux, les passionnés peuvent vous contacter par courrier électronique à louis.rougnon. R-O-U-G-N-O-N, trait d'union, glaçon. Alors, glaçon, G-L-A-2-S-O-N, @laposte.net, pour peut-être trouver des contradicteurs solides.
Ah, mais je voudrais des contradicteurs en public, parce que c'est vraiment. Une orthographe qui consiste à écrire ce qui ne se prononce pas est indéfendable. Et donc, c'est toujours pratique de, de jouer Obélix.
En tout cas, Louis Renaud-Glaçon, peut-être que vous allez ce soir... peut-être que vous avez agacé les défenseurs de l'orthographe traditionnelle. J'espère qu'il y aura des réactions et justement des débats. En tout cas, merci d'avoir ouvert le débat ce soir à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion.
Oui, alors si jamais ça serait peut-être envisageable de faire un débat à Radion.
Oui.
Peut-être un coup avec un bon contradicteur. Je pense qu'on aura plus de contradicteurs, oui. Oui, ça serait intéressant. Il serait tellement maladroit que ça serait peut-être assez, mais ça serait toujours bon à faire.
L'idée est lancée, donc oui. Si vous désirez venir débattre devant les micros de Radion avec Louis Renaud-Glaçon, vous prenez, vous contactez Radion à Auxerre. Louis Renaud-Glaçon, merci.
C'est moi, oui.
Je signale à nos auditrices et auditeurs donc, que notre émission sera en ligne d'ici quelques jours, et puis je donne rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre ce soir. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre à 21h, toujours sur Radion 90.5 dans le département de Lyon, ou alors en direct via Internet sur le www.radion.fr à Morteau, à Mont-le-Bon, à Besançon, quatre coins de France,
au
Maroc et dans tous les pays francophones. Oui. Bonsoir à toutes et à tous et merci. Au revoir, Louis Renaud-Glaçon.
Eh bien, merci. Thank you.